Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 3, chapitre 5. Gil Blas devient homme à bonne fortune. Il fait connaissance avec une jolie personne. Après quelques heures de sommeil, je me levai de bonne humeur, et, me souvenant des avis que Mélendez m'avait donnés, j'allais, en attendant le réveil de mon maître, faire ma cour à notre intendant, dont la vanité me parut un peu flattée de l'attention que j'avais à lui rendre mes respects. Il me reçut d'un air gracieux et me demanda si je m'accommodais du genre de vie des jeunes seigneurs. Je répondis qu'il était nouveau pour moi, mais que je ne désespérais pas de m'y accoutumer dans la suite. Je m'y accoutumai, effectivement, et bientôt même. Je changeai d'humeur et d'esprit. De sage et posé que j'étais auparavant, je devins vif, étourdi, turlupin. Le valet de Don Antonio me fit compliment sur ma métamorphose et me dit que, pour être un illustre, il ne me manquait plus que d'avoir des bonnes fortunes. Il me présenta que c'était une chose absolument nécessaire pour achever un joli homme, que tous nos camarades étaient aimés de quelque belle personne et que lui, pour sa part, possédait les bonnes grâces de deux femmes de qualité. Je jugeai que le maraud mentait. « Monsieur Maugicon, lui dis-je, vous êtes sans doute un garçon bien fait et fort spirituel, vous avez du mérite, mais je ne comprends pas comment des femmes de qualité, chez qui vous ne demeurez point, ont pu se laisser charmer d'un homme de votre condition. »« Oh, vraiment, me répondit-il, elles ne savent pas qui je suis, c'est sous les habits de mon maître, et même sous son nom que j'ai fait ces conquêtes. Voici comment. » Je m'habille en jeune seigneur, j'en prends les manières, je vais à la promenade, j'agace toutes les femmes que je vois, jusqu'à ce que j'en rencontre une qui réponde à mes mines. Je suis celle-là et fais si bien que je lui parle. Je me dis « Don Antonio Santelet ». Je demande un rendez-vous, la dame fait des façons, je la presse, elle me l'accorde, etc. « C'est ainsi, mon enfant, » continua-t-il, que je me conduis pour avoir des bonnes fortunes, et je te conseille de suivre mon exemple. » J'avais trop envie d'être un illustre pour n'écouter pas ce conseil. Outre cela, je ne me sentais pas de répugnance pour une intrigue amoureuse. Je formai donc le dessein de me travestir en jeune seigneur pour aller chercher des aventures galantes. Je n'osais me déguiser dans notre hôtel, de peur que cela ne fût remarqué. Je pris un bel habillement complet dans la garde-robe de mon maître et j'en fis un paquet que j'emportai chez un petit barbier de mes amis, où je jugeai que je pourrais m'habiller et me déshabiller commodément. Là, je me parais le mieux qu'il me fut possible. Le barbier mit aussi la main à mon ajustement, et quand nous crûmes qu'on n'y pouvait plus rien ajouter, je marchai vers le pré de Saint-Jérôme, d'où j'étais bien persuadée que je ne reviendrais pas sans avoir trouvé quelque bonne fortune. Mais je ne fus pas obligée de courir si loin pour en ébaucher une des plus brillantes. Comme je traversais une rue détournée, je vis sortir d'une petite maison et monter dans un carrosse de louage qui était à la porte une dame richement habillée et parfaitement bien faite. Je m'arrêtai tout court pour la considérer, et je la saluai d'un air à lui faire comprendre qu'elle ne me déplaisait pas. De son côté, pour me faire voir qu'elle méritait encore plus que je ne pensais mon attention, elle leva pour un moment son voile et offrit à ma vue un visage des plus agréables. Cependant, le carrosse partit et je demeurai dans la rue, un peu étourdi des traits que je venais de voir. « La jolie figure !» disais-je en moi-même. « Peste ! Il faudrait cela pour m'achever. Si les deux dames qui aiment Maugicon sont aussi belles que celles-ci, voilà un faquin bien heureux. Je serais charmée de mon sort si j'avais une pareille maîtresse. » En faisant cette réflexion, je jetai les yeux par hasard sur la maison d'où j'avais vu sortir cette aimable personne, et j'aperçus à la fenêtre d'une salle basse une vieille femme qui me fit signe d'entrer. Je volai aussitôt dans la maison, et je trouvai dans une salle assez propre cette vénérable et discrète vieille qui, me prenant pour un marquis tout au moins, me salua respectueusement et me dit « Je ne doute pas, Seigneur, que vous n'ayez mauvaise opinion d'une femme qui, sans vous connaître, vous fait signe d'entrer chez elle. Mais vous jugerez peut-être plus favorablement de moi quand vous saurez que je n'en use pas de cette sorte avec tout le monde. Vous me paraissez un seigneur de la cour. Vous ne vous trompez pas, mamie, interrompis-je en étendant la jambe droite et penchant le corps sur la hanche gauche. Je suis, sans vanité, d'une des plus grandes maisons d'Espagne. Vous en avez bien la mine, reprit-elle, et je vous avouerai que j'aime à faire plaisir aux personnes de qualité. C'est mon faible. Je vous ai observé par ma fenêtre. Vous avez regardé très attentivement, ce me semble, une dame qui vient de me quitter. Vous sentiriez-vous du goût pour elle? Dites-le-moi confidemment. Foi d'homme de cour, lui répondis-je. Elle m'a frappé. Je n'ai jamais rien vu de plus piquant que cette créature-là. Faufilez-nous ensemble, ma bonne, et comptez sur ma reconnaissance. Il fait bon rendre ces sortes de services à nous autres, grand seigneur. Ce ne sont pas ceux que nous payons le plus mal. Je vous l'ai déjà dit, répliqua la vieille. Je suis toute dévouée aux personnes de condition. Je me plais à leur être utile. Je reçois ici, par exemple, certaines femmes que des dehors de vertu empêchent de voir leur galant chez elles. Je leur prête ma maison pour concilier leur tempérament avec la bienséance. « Fort bien, lui dis-je, et vous venez apparemment de faire ce plaisir à la dame dont il s'agit. » « Non, répondit-elle, c'est une jeune veuve de qualité qui cherche un amant, mais elle est si difficile là-dessus que je ne sais si vous lui conviendrez, malgré tout le mérite que vous pouvez avoir. Je lui ai déjà présenté 3 cavaliers bien bâtis qu'elle a dédaignés. « Oh, parbleu, ma chère, m'écriai-je d'un air de confiance, tu n'as qu'à me mettre à ses trousses, je t'en rendrai bon compte sur ma parole. » Je suis curieux d'avoir un tête-à-tête avec une beauté difficile. Je n'en ai point rencontré de ce caractère-là. « Eh bien, me dit la vieille, vous n'avez qu'à venir ici demain à la même heure. Vous satisferez votre curiosité. » « Je n'y manquerai pas, lui répartis-je. Nous verrons si un jeune seigneur tel que moi peut rater une conquête. » Je retournai chez le petit barbier sans vouloir chercher d'autres aventures et fort impatient de la suite de celle-ci. Ainsi, le jour suivant, après m'être encore bien ajusté, je me rendis chez la vieille 1 heure plus tôt qu'il ne fallait. « Seigneur, me dit-elle, vous êtes ponctuel et je vous en sais bon gré. Il est vrai que la chose en vaut bien la peine. J'ai vu notre jeune veuve et nous nous sommes fort entretenus de vous. On m'a défendu de parler, mais j'ai pris tant d'amitié pour vous que je ne puis me taire. Vous avez plu, et vous allez devenir un heureux seigneur. Entre nous, la dame est un morceau tout appétissant. Son mari n'a pas vécu longtemps avec elle, il n'a fait que passer comme une ombre. Elle a tout le mérite d'une fille. » La bonne vieille, sans doute, voulait dire d'une de ces filles d'esprit qui savent vivre sans ennui dans le célibat. L'héroïne du rendez-vous arriva bientôt en carrosse de louage comme le jour précédent et vêtue de superbes habits. D'abord qu'elle parut dans la salle, je débutai par 5 ou 6 révérences de petits maîtres, accompagnées de leurs plus gracieuses contorsions. Après quoi, je m'approchai d'elle d'un air très familier et lui dis « Ma princesse, vous voyez un seigneur qui en a dans l'aile. Votre image depuis hier s'offre incessamment à mon esprit, et vous avez expulsé de mon cœur une duchesse qui commençait à y prendre pied. Le triomphe est trop glorieux pour moi, répondit-elle en ôtant son voile, mais je n'en ressens pas une joie pure. Un jeune seigneur aime le changement, et son cœur est, dit-on, plus difficile à garder que la pistole volante. Eh, ma reine, repris-je, laissons là, s'il vous plaît, l'avenir. Ne songeons qu'au présent. Vous êtes belle, je suis amoureux. Si mon amour vous est agréable, engageons-nous sans réflexion. Embarquons-nous comme les matelots. N'envisageons point les périls de la navigation. N'en regardons que les plaisirs. En achevant ces paroles, je me jetai avec transport aux genoux de ma nymphe, et pour mieux imiter les petits maîtres, je la pressai d'une manière pétulante de faire mon bonheur. Elle me parut un peu émue de mes instances, mais elle ne crut pas devoir s'y rendre encore, et me repoussant, « Arrêtez-vous !» me dit-elle. « Vous êtes trop vif, vous avez l'air libertin. J'ai bien peur que vous ne soyez un petit débauché. » « Fi donc, madame, m'écriai-je, pouvez-vous haïr ce qu'aiment les femmes hors du commun? Il n'y a plus que quelques bourgeoises qui se révoltent contre la débauche. » « C'en est trop, reprit-elle, je me rends à une raison si forte. Je vois bien qu'avec vous autres, seigneurs, les grimaces sont inutiles. Il faut qu'une femme fasse la moitié du chemin. Apprenez donc votre victoire, ajouta-t-elle avec une apparence de confusion, comme si sa pudeur eût souffert de cet aveu. « Vous m'avez inspiré des sentiments que je n'ai jamais eus pour personne, et je n'ai plus besoin que de savoir qui vous êtes pour me déterminer à vous choisir pour mon amant. Je vous crois un jeune seigneur, et même un honnête homme. Cependant, je n'en suis point assuré, et quelque prévenu que je sois en votre faveur, je ne veux pas donner ma tendresse à un inconnu. » Je me souvins alors de quelle façon le valet de Don Antonio m'avait dit qu'il sortait d'un pareil embarras, et voulant à son exemple passer pour mon maître, « Madame, dis-je à ma veuve, je ne me défendrai point de vous apprendre mon nom, il est assez beau pour mériter d'être avoué. Avez-vous entendu parler de Don Mathias de Silva ?»«
Oui, répondit-elle, je vous dirai même que je l'ai vu chez une personne de ma connaissance. »
Quoique déjà effrontée, je fus un peu troublée de cette réponse. Je me rassurai toutefois dans le moment, et faisant force de génie pour me tirer de là,
« Eh bien, mon ange, repris-je, vous connaissez un seigneur que je connais aussi. Je suis de sa maison, puisqu'il faut vous le dire. Son aïeul épousa la belle-sœur d'un oncle de mon père. Nous sommes, comme vous voyez, assez proches parents. Je m'appelle Don César. Je suis fils unique de l'illustre Don Fernand de Ribera, qui fut tué il y a 15 ans, dans une bataille qui se donna sur les frontières de Portugal. Je vous ferai bien un détail de l'action. Elle fut diablement vive, mais ce serait perdre des moments précieux que l'amour veut que j'emploie plus agréablement. » Je devins pressant et passionné après ce discours, ce qui ne me mena pourtant à rien. Les faveurs que ma déesse me laissa prendre ne servirent qu'à me faire soupirer après celles qu'elle me refusa. La cruelle regagna son carrosse qui l'attendait à la porte. Je ne laissai pas néanmoins de me retirer très satisfait de ma bonne fortune, bien que je ne fusse pas encore parfaitement heureux. « Si, disais-je en moi-même, je n'ai obtenu que des demi-bontés, c'est que madame est une personne qualifiée, qui n'a pas cru devoir céder à mes transports dans une première entrevue. La fierté de sa naissance a retardé mon bonheur, mais il n'est différé que de quelques jours. Il est bien vrai que je me représentais aussi que ce pouvait être une matoise des plus raffinées. Cependant, j'aimais mieux regarder la chose du bon côté que du mauvais, et je conservais l'avantageuse opinion que j'avais conçue de ma veuve. Nous étions convenus, en nous quittant, de nous revoir le surlendemain, et l'espérance de parvenir au comble de mes vœux me donnait un avant-goût des plaisirs dont je me flattais. L'esprit plein des plus riantes images, je me rendis chez mon barbier. Je changeai d'habit et j'allai joindre mon maître dans un tripot où je savais qu'il était. Je le trouvai engagé au jeu et je m'aperçus qu'il gagnait, car il ne ressemblait pas à ces joueurs froids qui s'enrichissent ou se ruinent sans changer de visage. Il était railleur et insolent dans la prospérité et fort bourru dans la mauvaise fortune. Il sortit fort gai du tripot et prit le chemin du théâtre du Prince. Je le suivis jusqu'à la porte de la Comédie. Là, me mettant un ducat dans la main, « Tiens, Gil Blas, me dit-il, puisque j'ai gagné aujourd'hui, je veux que tu t'en ressentes. Va te divertir avec tes camarades et viens me prendre à minuit chez Arsini, où je dois souper avec Don Alexo Seglar. » À ces mots, il rentra et je demeurai à rêver avec qui je pourrais dépenser mon ducat, selon l'intention du fondateur. je ne rêvais pas longtemps. Clarin, valet de Don Alexo, se présenta tout à coup devant moi. Je le menai au premier cabaret et nous nous y amusâmes jusqu'à minuit. De là, nous nous rendîmes à la maison d'Arsénie où Clarin avait ordre aussi de se trouver. Un petit laquais nous ouvrit la porte et nous fit entrer dans une salle basse où la femme de chambre d'Arsénie et celle de Florimonde riaient à gorge déployée en s'entretenant ensemble, tandis que leur maîtresse était en haut avec nos maîtres. L'arrivée de deux vivants qui venaient de bien souper ne pouvait pas être désagréable à des soubrettes, et à des soubrettes de comédiennes encore. Mais quel fut mon étonnement lorsque, dans une de ces suivantes, je reconnus ma veuve, mon adorable veuve, que je croyais comtesse ou marquise. Elle ne parut pas moins étonnée de voir son cher Don César de Ribera changer en valet de petit maître. Nous nous regardâmes toutefois l'un et l'autre sans nous déconcerter. Il nous prit même à tous deux une envie de rire que nous ne pûmes nous empêcher de satisfaire. Après quoi, Laure, c'est ainsi qu'elle s'appelait, me tirant à part, tandis que Clarin parlait à sa compagne, me tendit gracieusement la main et me dit tout bas « Touchez-la, seigneur Don César. Au lieu de nous faire des reproches réciproques, faisons-nous des compliments. » « Mon ami, vous avez fait votre rôle à ravir, et je ne me suis point mal non plus acquittée du mien. Qu'en dites-vous ? Avouez que vous m'avez prise pour une de ces jolies femmes de qualité qui se plaisent à faire des équipées. » « Il est vrai, lui répondis-je, mais qui que vous soyez, ma reine, je n'ai point changé de sentiment en changeant de forme. Agréez de grâce mes services et permettez que le valet de chambre de Don Mathias achève ce que Don César a si heureusement commencé. » « Va, reprit-elle, je t'aime encore mieux dans ton naturel qu'autrement. Tu es en homme ce que je suis en femme. C'est la plus grande louange que je puisse te donner. Je te reçois au nombre de mes adorateurs. Nous n'avons plus besoin du ministère de la vieille. Tu peux venir ici me voir librement. Nous autres dames de théâtre, nous vivons sans contrainte et pêle-mêle avec les hommes. Je conviens qu'il y paraît quelquefois, mais le public en rit et nous sommes faites, comme tu sais, pour le divertir. » Nous en demeurâmes là parce que nous n'étions pas seuls. La conversation devint générale, vive, enjouée et pleine d'équivoques clairs. Chacun y mit du sien. La suivante d'Arsénie surtout, mon aimable Laure, brilla fort et fit paraître beaucoup plus d'esprit que de vertu. D'un autre côté, nos maîtres et les comédiennes poussaient souvent de longs éclats de rire que nous entendions, ce qui suppose que leur entretien était aussi raisonnable que le nôtre. Si l'on eût écrit toutes les belles choses qui se dirent cette nuit chez Arsénie, on en aurait, je crois, composé un livre très instructif pour la jeunesse. Cependant, l'heure de la retraite, c'est-à-dire le jour, arriva. Il fallut se séparer. Clarin suivit Don Alexo et je me retirai avec Don Mathias. Chapitre 6. De l'entretien de quelques seigneurs sur les comédiens de la troupe du prince. Ce jour-là, mon maître, à son lever, reçut un billet de Don Alexo Séguiar qui lui mandait de se rendre chez lui. Nous y allâmes et nous trouvâmes avec lui le marquis de Zenette et un autre jeune seigneur de bonne mine que je n'avais jamais vu. « Don Mathias, » dit Séguiar à mon patron en lui présentant ce cavalier que je ne connaissais point. « Vous voyez Don Pompeo de Castro, mon parent. Il est presque dès son enfance à la cour de Pologne. Il arriva hier au soir à Madrid et il s'en retourne dès demain à Varsovie. Il n'a que cette journée à me donner. Je veux profiter d'un temps si précieux. Et j'ai cru que, pour le lui faire trouver agréable, j'avais besoin de vous et du marquis de Zenette. » Là-dessus, mon maître et le parent de Don Alexa s'embrassèrent et se firent l'un à l'autre force compliments. Je fus très satisfait de ce que dit Don Pompeo. Il me parut avoir l'esprit solide et délié. On dîna chez Séguiar, et ces seigneurs, après le repas, jouèrent pour s'amuser jusqu'à l'heure de la comédie. Alors, ils allèrent tous ensemble au théâtre du prince voir représenter une tragédie nouvelle qui avait pour titre la reine de Carthage. La pièce finie, ils revinrent souper au même endroit où ils avaient dîné, et leur conversation roula d'abord sur le poème qu'ils venaient d'entendre, ensuite sur les acteurs. « Pour l'ouvrage, s'écria Don Mathias, je l'estime peu, j'y trouve Aîné encore plus fade que dans l'Énéide. Mais il faut convenir que la pièce a été jouée divinement. Qu'en pense le seigneur Don Pompeo ?
Il n'est pas, ce me semble, de mon sentiment, messieurs, dit ce cavalier en souriant. Je vous ai vu tantôt si charmé de vos acteurs et particulièrement de vos actrices que je n'oserais vous avouer que j'en ai jugé tout autrement que vous.
C'est fort bien fait, interrompit Don Alexo en plaisantant. Vos censures seraient ici fort mal reçues. Respectez nos actrices devant les trompettes de leur réputation. Nous buvons tous les jours avec elles. Nous les garantissons parfaites. Nous en donnerons, si l'on veut, des certificats.
Je n'en doute point, lui répondit son parent. Vous m'en donneriez même de leur vie et mœurs, tant vous me paraissez amis.
Vos comédiennes polonaises, dit en riant le marquis de Zenette, sont sans doute beaucoup meilleures.
Oui, certainement, répliqua Don Pompeo. Elles valent mieux. Il y en a du moins quelques-unes qui n'ont pas le moindre défaut.
Celles-là, reprit le marquis, peuvent compter sur vos certificats ?
Je n'ai point de liaison avec elles, repartit Don Pompeo. Je ne suis point de leur débauche. Je puis juger de leur mérite sans prévention.
En bonne foi, poursuivit-il. Croyez-vous avoir une troupe excellente ?
Non, parbleu, dit le marquis, je ne le crois pas, et je ne veux défendre qu'un très petit nombre d'acteurs. J'abandonne tout le reste. Ne conviendrez-vous pas que l'actrice qui a joué le rôle de Didon est admirable ? N'a-t-elle pas représenté cette reine avec toute la noblesse et tout l'agrément convenable à l'idée que nous en avons ? Et n'avez-vous pas admiré avec quel art elle attache un spectateur et lui fait sentir les mouvements de toutes les passions qu'elle exprime ? On peut dire qu'elle est consommée dans les raffinements de la déclamation.
Je demeure d'accord, dit Don Pompeo, qu'elle sait émouvoir et toucher. Jamais comédienne n'eut plus d'entrailles, et c'est une belle représentation. Mais ce n'est point une actrice sans défaut. Deux ou trois choses m'ont choquée dans son jeu. Veut-elle marquer de la surprise ? Elle roule les yeux d'une manière outrée, ce qui sied mal à une princesse. Ajoutez à cela qu'en grossissant le son de sa voix, qui est naturellement doux, elle en corrompt la douceur et forme un creux assez désagréable. D'ailleurs, il m'a semblé, dans plus d'un endroit de la pièce, qu'on pouvait la soupçonner de ne pas trop bien entendre ce qu'elle disait. J'aime mieux pourtant croire qu'elle était distraite que de l'accuser de manquer d'intelligence.
« À ce que je vois, dit alors Don Mathias au censeur, vous ne seriez pas homme à faire des vers à la louange de nos comédiennes.
« Pardonnez-moi, répondit Don Pompeo, je découvre beaucoup de talents au travers de leurs défauts. Je vous dirais même que je suis enchantée de l'actrice qui a fait la suivante dans les intermèdes. Le beau naturel, avec quelle grâce elle occupe la scène. A-t-elle quelques bons mots à débiter ? Elle l'assaisonne d'un sourire malin et plein de charme, qui lui donne un nouveau prix. On pourrait lui reprocher qu'elle se livre quelquefois un peu trop à son feu et passe les bornes d'une honnête hardiesse. Mais il ne faut pas être si sévère. Je voudrais seulement qu'elle se corrigeât d'une mauvaise habitude. Souvent, au milieu d'une scène, dans un endroit sérieux, elle interrompt tout à coup l'action pour céder à une folle envie de rire qui lui prend. Vous me direz que le parterre l'applaudit dans ces moments même. Cela est heureux.
Et que pensez-vous des hommes ? Interrompit le marquis. Vous devez tirer sur eux à cartouche, puisque vous n'épargnez pas les femmes.
Non, dit Don Pompeo, j'ai trouvé quelques jeunes acteurs qui promettent, et je suis surtout assez content de ce gros comédien qui a joué le rôle du premier ministre de Didon. Il récite très naturellement, et c'est ainsi qu'on déclame en Pologne.
Si vous êtes satisfait de cela, dit Séguiar, vous devez être charmé de celui qui a fait le personnage d'Aîné.
ne vous a-t-il pas paru un grand comédien, un acteur original ?»«
Fort original, » répondit le censeur. « Il a des tons qui lui sont particuliers et il en a de bien aigus. Presque toujours hors de la nature, il précipite les paroles qui renferment le sentiment et appuie sur les autres. Il fait même des éclats sur des conjonctions. Il m'a fort diverti, et particulièrement lorsqu'il exprimait à son confident la violence qu'il se faisait d'abandonner sa princesse. On ne saurait témoigner de la douleur plus comiquement.
« Tout beau, cousin !» répliqua Don Alexo. « Tu nous ferais croire à la fin qu'on n'est pas de trop bon goût à la cour de Pologne. Sais-tu bien que l'acteur dont nous parlons est un sujet rare, hein ? N'as-tu pas entendu les battements de mains qui l'a excité ? Cela prouve qu'il n'est pas si mauvais. »
« Cela ne prouve rien, » repartit Don Pompeo.
« Messieurs, » ajouta-t-il, « laissons là, je vous prie, les applaudissements du parterre. Il en donne souvent aux acteurs fort mal à propos. Il applaudit même plus rarement au vrai mérite qu'au faux, comme Phèdre nous l'apprend par une fable ingénieuse. Et permettez-moi de vous la rapporter. La voici. Tout le peuple d'une ville s'était assemblé dans une grande place pour voir jouer des pantomimes. Parmi ces acteurs, il y en avait un qu'on applaudissait à chaque moment. Ce bouffon, sur la fin du jeu, voulut fermer le théâtre par un spectacle nouveau. Il parut seul sur la scène, se baissa, se couvrit la tête de son manteau et se mit à contrefaire le cri d'un cochon de lait. Il s'en acquitta de manière qu'on s'imagina qu'il en avait un véritablement sous ses habits. On lui cria de secouer son manteau et sa robe, ce qu'il fit, et comme il ne se trouva rien dessous, les applaudissements se renouvelèrent avec plus de fureur dans l'assemblée. Un paysan, qui était au nombre des spectateurs, fut choqué de ces témoignages d'admiration. « Messieurs, s'écria-t-il, vous avez tort d'être charmé de ce bouffon. Il n'est pas si bon acteur que vous le croyez. Je sais mieux faire que lui le cochon de lait. Et si vous en doutez, vous n'avez qu'à revenir ici demain à la même heure. » Le peuple, prévenu en faveur du pantomime, se rassembla le jour suivant en plus grand nombre, et plutôt pour siffler le paysan que pour voir ce qu'il savait faire. Les deux rivaux parurent sur le théâtre. Le bouffon commença, et fut encore plus applaudi que le jour précédent. Alors, le villageois, s'étant baissé à son tour et enveloppé de son manteau, tira l'oreille à un véritable cochon qu'il tenait sous son bras, et lui fit pousser des cris perçants. Cependant, l'assistance ne laissa pas de donner le prix au pantomime et chargea de huer le paysan, qui, montrant tout à coup le cochon de lait aux spectateurs, « Messieurs, leur dit-il, ce n'est pas moi que vous sifflez, c'est le cochon lui-même. Voyez quel juge vous êtes !»« Cousin, dit Don Alexo, ta fable est un peu vive. Néanmoins, malgré ton cochon de lait, nous n'en démordrons pas. »
« Changeons de matière, » poursuivit-il, « celle-ci m'ennuie. Tu pars donc demain ? Quelque envie que j'ai de te posséder plus longtemps ?»«
Je voudrais, » répondit son parent, « pouvoir faire ici un plus long séjour, mais je ne le puis, je vous l'ai déjà dit. Je suis venu à la cour d'Espagne pour une affaire d'État. Je parlais hier en arrivant au Premier ministre. Je dois le voir encore demain matin. » Et je partirai un moment après pour m'en retourner à Varsovie.
Te voilà devenu polonais, répliqua Séguiar. Et selon toutes les apparences, tu ne reviendras point demeurer à Madrid.
Je crois que non, repartit Don Pompeo. J'ai le bonheur d'être aimé du roi de Pologne. J'ai beaucoup d'agréments à sa cour. Quelque bonté pourtant qu'il ait pour moi. « Croiriez-vous que j'ai été sur le point de sortir pour jamais de ces états ?»«
Eh, par quelle aventure ?» dit le marquis. « Contez-nous cela, je vous prie. »«
Très volontiers, » répondit Don Pompeo. « Et c'est en même temps mon histoire dont je vais vous faire le récit. »
Chapitre 7. Histoire de Don Pompeo de Castro. « Don Alexo, » poursuivit-il, « c'est qu'au sortir de mon enfance, je voulus prendre le parti des armes, et que, voyant notre pays tranquille, j'allais en Pologne, à qui les Turcs venaient alors de déclarer la guerre. Je me fis présenter au roi, qui me donna de l'emploi dans son armée.
J'étais un cadet des moins riches d'Espagne, ce qui m'imposait la nécessité de me signaler par des exploits qui m'attirassent l'attention du général. Je fis si bien mon devoir qu'après une assez longue guerre, la paix étant faite, le roi, sur les bons témoignages que les officiers généraux lui rendirent de moi, me gratifia d'une pension considérable. Sensible à la générosité de ce monarque, je ne perdais pas une occasion de lui en témoigner ma reconnaissance par mon assiduité. J'étais devant lui à toutes les heures où il est permis de se présenter à ses regards. Par cette conduite, je me fis insensiblement aimer de ce prince, et j'en reçus de nouveaux bienfaits. Un jour que je me distinguais dans une course de bagues et dans un combat de taureaux qui la précéda, toute la cour loua ma force et mon adresse. Et lorsque, comblé d'applaudissements, je fus de retour chez moi, j'y trouvai un billet par lequel on me mandait qu'une dame, dont la conquête devait plus me flatter que tout l'honneur que je m'étais acquis ce jour-là, souhaitait de m'entretenir, et que je n'avais, à l'entrée de la nuit, qu'à me rendre à certains lieux qu'on me marquait. Cette lettre me fit plus de plaisir que toutes les louanges qu'on m'avait données, et je m'imaginais que la personne qui m'écrivait devait être une femme de la première qualité. Vous jugez bien que je volais au rendez-vous. Une vieille, qui m'y attendait pour me servir de guide, m'introduisit par une petite porte du jardin dans une grande maison et m'enferma dans un riche cabinet en me disant « Demeurez ici, je vais avertir ma maîtresse de votre arrivée. » J'aperçus bien des choses précieuses dans ce cabinet qu'éclairait une grande quantité de bougies, mais je n'en considérais la magnificence que pour me confirmer dans l'opinion que j'avais déjà conçue de la dame. Si tout ce que je voyais semblait m'assurer que ce ne pouvait être qu'une personne du premier rang, quand elle parut, elle acheva de me le persuader par son air noble et majestueux. Cependant, ce n'était pas ce que je pensais. « Seigneur cavalier, me dit-elle, après la démarche que je fais en votre faveur, il serait inutile de vouloir vous cacher que j'ai de tendres sentiments pour vous. » Le mérite que vous avez fait paraître aujourd'hui devant toute la cour ne me les a point inspirés. Il en précipite seulement le témoignage. Je vous ai vu plus d'une fois. Je me suis informé de vous, et le bien qu'on m'en a dit m'a déterminé à suivre mon penchant. Ne croyez pas, poursuivit-elle, avoir fait la conquête d'une altesse. Je ne suis que la veuve d'un simple officier des gardes du roi. Mais ce qui rend votre victoire glorieuse, c'est la préférence que je vous donne sur un des plus grands seigneurs du royaume. Le prince de Radziville m'aime et n'épargne rien pour me plaire. Il n'y peut toutefois réussir, et je ne souffre ses empressements que par vanité. Quoique je vise bien à ce discours que j'avais affaire à une coquette, je ne laissais pas de savoir bon gré de cette aventure à mon étoile. Donna Hortensia, c'est ainsi que se nommait la dame, était encore dans sa première jeunesse, et sa beauté m'éblouit. De plus, on m'offrait la possession d'un cœur qui se refusait aux soins d'un prince. Quel triomphe pour un cavalier espagnol! Je me prosternai aux pieds d'Hortense pour la remercier de ses bontés. Je lui dis tout ce qu'un homme galant pouvait lui dire, et elle eut lieu d'être satisfaite des transports de reconnaissance que je fis éclater. Aussi nous séparâmes-nous tous deux les meilleurs amis du monde, après être convenus que nous nous verrions tous les soirs que le prince ne pourrait venir chez elle. Ce qu'on promit de me faire savoir très exactement. On n'y manqua pas, et je devins enfin l'Adonis de cette nouvelle Vénus. Mais les plaisirs de la vie ne sont pas d'éternelle durée. Quelques mesures que prit la dame pour dérober la connaissance de notre commerce à mon rival, il ne laissa pas d'apprendre tout ce qu'il nous importait fort qu'il ignora. Une servante mécontente le mit au fait. Ce seigneur, naturellement généreux, mais fier, jaloux et violent, fut indigné de mon audace. La colère et la jalousie lui troublèrent l'esprit. Et, ne consultant que sa fureur, il résolut de se venger de moi d'une manière infâme. Une nuit que j'étais chez Hortense, il vint m'attendre à la petite porte du jardin, avec tous ses valets armés de bâtons. Dès que je sortis, il me fit saisir par ces misérables et leur ordonna de m'assommer. « Frappez, leur dit-il, que le téméraire périsse sous vos coups. C'est ainsi que je veux punir son insolence. » Il n'eut pas achevé ces paroles que ces gens m'assaillirent tous ensemble et me donnèrent tant de coups de bâton qu'ils m'étendirent sans sentiment sur la place. Après quoi ils se retirèrent avec leur maître, pour qui cette cruelle exécution avait été un spectacle bien doux. Je demeurai le reste de la nuit dans l'état où ils m'avaient mis. À la pointe du jour, il passa près de moi quelques personnes qui, s'apercevant que je respirais encore, eurent la charité de me porter chez un chirurgien. Par bonheur, mes blessures ne se trouvèrent pas mortelles, et je tombai entre les mains d'un habile homme qui me guérit en 2 mois parfaitement. Au bout de ce temps-là, je reparus à la cour et repris mes premières brisées, excepté que je ne retournai plus chez Hortense, qui, de son côté, ne fit aucune démarche pour me revoir, parce que le prince, à ce prix-là, lui avait pardonné son infidélité. Comme mon aventure n'était ignorée de personne et que je ne passais pas pour un lâche, tout le monde s'étonnait de me voir aussi tranquille que si je n'eusse pas reçu un affront. Car je ne disais pas ce que je pensais et je semblais n'avoir aucun ressentiment. On ne savait que s'imaginer de ma fausse insensibilité. Les uns croyaient que, malgré mon courage, le rang de l'offenseur me tenait en respect et m'obligeait à dévorer l'offense. Les autres, avec plus de raison, se défiaient de mon silence et regardaient comme un calme trompeur la situation paisible où je paraissais être. Le roi jugea, comme ces derniers, que je n'étais pas homme à laisser un outrage impuni, et que je ne manquerais pas de me venger sitôt que j'en trouverais une occasion favorable. Pour savoir s'il devinait ma pensée, il me fit entrer un jour dans son cabinet où il me dit « Don Pompeo, je sais l'accident qui vous est arrivé, et je suis surpris, je l'avoue, de votre tranquillité. Vous dissimulez certainement. » « Sire, lui répondis-je, j'ignore qui peut être l'offenseur. J'ai été attaqué la nuit par des gens inconnus. C'est un malheur dont il faut bien que je me console. » « Non, non, répliqua le roi, je ne suis point la dupe de ce discours peu sincère. On m'a tout dit. Le prince de Radziville vous a mortellement offensé. Vous êtes noble et castillan, je sais à quoi ces deux qualités vous engagent. Vous avez formé la résolution de vous venger. » « Faites-moi confiance du parti que vous avez pris. Je le veux. Ne craignez point de vous repentir de m'avoir confié votre secret. » « Puisque votre majesté me l'ordonne, lui repartis-je, il faut donc que je lui découvre mes sentiments. Oui, seigneur, je songe à tirer vengeance de l'affront qu'on m'a fait. Tout homme qui porte un nom pareil au mien en est comptable à sa race. Vous savez l'indigne traitement que j'ai reçu. » Et je me propose d'assassiner le prince pour me venger d'une manière qui réponde à l'offense. Je lui plongerai un poignard dans le sein ou lui casserai la tête d'un coup de pistolet. Et je me sauverai, si je puis, en Espagne. Voilà quel est mon dessein. « Il est violent, » dit le roi. « Néanmoins, je ne saurais le condamner. Après le cruel outrage que Radziville vous a fait, il est digne du châtiment que vous lui réservez. Mais n'exécutez pas sitôt votre entreprise. Laissez-moi chercher un tempérament pour vous accommoder tous deux. » « Ah, seigneur ! » m'écriai-je avec chagrin. « Pourquoi m'avez-vous obligé de vous révéler mon secret ? Quel tempérament peut... » « Si je n'en trouve pas qui vous satisfasse, » interrompit-il, « vous pourrez faire ce que vous avez résolu. » Je ne prétends point abuser de la confidence que vous m'avez faite. Je ne trahirai point votre honneur. Soyez sans inquiétude là-dessus. » J'étais assez en peine de savoir par quels moyens le roi prétendait terminer cette affaire à l'amiable. Voici comment il s'y prit. Il entretint en particulier mon rival. « Prince, lui dit-il, vous avez offensé Don Pompeo de Castro. Vous n'ignorez pas que c'est un homme d'une naissance illustre, un cavalier que j'aime et qui m'a bien servi. Vous lui devez une satisfaction. »
Je ne suis pas d'humeur à la lui refuser, répondit le prince. S'il se plaint de mon emportement, je suis prêt à lui en faire raison par la voie des armes.
Il faut une autre réparation, reprit le roi. Un gentilhomme espagnol entend trop bien le point d'honneur pour vouloir se battre noblement avec un lâche assassin. Je ne puis vous appeler autrement. Et vous ne sauriez expier l'indignité de votre action qu'en présentant vous-même un bâton à votre ennemi et qu'en vous offrant à ses coups.
« Oh, ciel !» s'écria mon rival. « Quoi ? Sire, vous voulez qu'un homme de mon rang s'abaisse, qu'il s'humilie devant un simple cavalier et qu'il en reçoive même des coups de bâton ?»«
Non, » repartit le monarque, « j'obligerai Don Pompeo à me promettre qu'il ne vous frappera point. » « Demandez-lui pardon de votre violence en lui présentant un bâton. C'est tout ce que j'exige de vous. »«
Et c'est trop attendre de moi, sire !»
interrompit brusquement Radzivill. « J'aime mieux demeurer exposé aux traits cachés que son ressentiment me prépare. »«
Vos jours me sont chers, » dit le roi, « et je voudrais que cette affaire n'eût point de mauvaise suite. » Pour la finir avec moins de désagréments pour vous, je serai seul témoin de cette satisfaction que je vous ordonne de faire à l'Espagnol. »
Le roi eut besoin de tout le pouvoir qu'il avait sur le prince pour obtenir de lui qu'il fît une démarche si mortifiante. Ce monarque pourtant en vint à bout. Ensuite, il m'envoya chercher. Il me conta l'entretien qu'il venait d'avoir avec mon ennemi et me demanda si je serais content de la réparation dont ils étaient convenus tous deux. Je répondis qu'oui, et je donnai ma parole, que bien loin de frapper l'offenseur, je ne prendrais pas même le bâton qu'il me présenterait. Cela étant réglé de cette sorte, le prince et moi nous trouvâmes un jour, à certaine heure, chez le roi, qui s'enferma dans son cabinet avec nous. « Allons, » dit-il à Radzivill, « reconnaissez votre faute et méritez qu'on vous la pardonne. » Alors mon ennemi me fit des excuses et me présenta un bâton qu'il avait à la main. « Don Pompeo, » me dit le monarque en ce moment, « prenez ce bâton et que ma présence ne vous empêche pas de satisfaire votre honneur outragé. Je vous rends la parole que vous m'avez donnée de ne point frapper votre ennemi. »
« Non, seigneur, » lui répondis-je. « Il suffit qu'il se mette en état de recevoir des coups de bâton. Un Espagnol offensé n'en demande pas davantage. »
« Eh bien, » reprit le roi, « puisque vous êtes content de cette satisfaction, vous pouvez présentement tous deux suivre la franchise d'un procédé régulier. Mesurez vos épées pour terminer noblement votre querelle. »
« C'est ce que je désire avec ardeur, » s'écria le prince d'un ton brusque. « Et cela seul est capable de me consoler de la honteuse démarche que je viens de faire. »
À ces mots, il sortit plein de rage et de confusion. Et 2 heures après, il m'envoya dire qu'il m'attendait dans un endroit écarté. Je m'y rendis, et je trouvai ce seigneur disposé à se bien battre. Il n'avait pas 45 ans. Il ne manquait ni de courage ni d'adresse. On peut dire que la partie était égale entre nous.
« Venez, Don Pompeo, » me dit-il. « Finissons ici notre différend. Nous devons l'un et l'autre être en fureur, vous du traitement que je vous ai fait, et moi de vous en avoir demandé pardon. »
En achevant ces paroles, il mit si brusquement l'épée à la main que je n'eus pas le temps de lui répondre. Il me poussa d'abord très vivement, mais j'eus le bonheur de parer tous les coups qu'il me porta. Je le poussai à mon tour. Je sentis que j'avais affaire à un homme qui savait aussi bien se défendre qu'attaquer. Et je ne sais ce qu'il en serait arrivé s'il n'eût pas fait un faux pas en reculant et ne fût tombé à la renverse. Je m'arrêtai aussitôt et dis au prince « Relevez-vous. »«
Pourquoi m'épargner ? » répondit-il. « Votre pitié me fait injure. »
« Je ne veux point, » lui répliquai-je, « profiter de votre malheur. Je ferai tort à ma gloire. » Encore une fois, relevez-vous et continuons notre combat.
Don Pompeo, dit-il en se relevant après ce trait de générosité, l'honneur ne me permet pas de me battre contre vous. Que dirait-on de moi si je vous perçais le cœur?
je passerais pour un lâche d'avoir arraché la vie à un homme qui me la pouvait ôter. Je ne puis donc plus m'armer contre vous, et je sens que la reconnaissance fait succéder de doux transports au mouvement furieux qui m'agitait. « Don Pompeo, continua-t-il, cessons de nous haïr l'un l'autre. Passons même plus avant. Soyons amis. » « Ah, Seigneur, m'écriai-je, j'accepte avec joie une proposition si agréable. Je vous voue une amitié sincère, et pour commencer à vous en donner des marques, je vous promets de ne plus remettre le pied chez Donna Hortensia, quand elle voudrait me revoir. « C'est moi, dit-il, qui vous cède cette dame. Il est plus juste que je vous l'abandonne, puisqu'elle a naturellement de l'inclination pour vous. « Non, non, interrompis-je. Vous l'aimez. Les bontés qu'elle aurait pour moi pourraient vous faire de la peine. Je les sacrifie à votre repos. » « Ah, trop généreux Castillan !» reprit Radziwill en me serrant entre ses bras. « Vos sentiments me charment. Qu'ils produisent de remords dans mon âme. Avec quelle douleur, avec quelle honte, je me rappelle l'outrage que vous avez reçu. La satisfaction que je vous en ai faite dans la chambre du roi me paraît trop légère en ce moment. Je veux mieux réparer cette injure. Et pour en effacer entièrement l'infamie, je vous offre une de mes nièces dont je puis disposer. C'est une riche héritière qui n'a pas 15 ans et qui est encore plus belle que jeune. » Je fis là-dessus au prince tous les compliments que l'honneur d'entrer dans son alliance me put inspirer, et j'épousai sa nièce peu de jours après. Toute la cour félicita ce seigneur d'avoir fait la fortune d'un cavalier qui l'avait couvert d'ignominie, et mes amis se réjouirent avec moi de l'heureux dénouement d'une aventure qui devait avoir une plus triste fin. Depuis ce temps, messieurs, je vis agréablement à Varsovie. Je suis aimé de mon épouse et j'en suis encore amoureux. Le prince Radziwill me donne tous les jours de nouveaux témoignages d'amitié, et j'ose me vanter d'être assez bien dans l'esprit du roi de Pologne. L'importance du voyage que je fais par son ordre à Madrid m'assure de son estime. Chapitre 8. Quel accident obligea Gil Blas à chercher une nouvelle condition. Telle fut l'histoire que Don Pompeo raconta et que nous entendîmes. Le valet de Don Alexo et moi, bien qu'on eût pris la précaution de nous renvoyer avant qu'il en commençât le récit. Au lieu de nous retirer, nous nous étions arrêtés à la porte que nous avions laissée entr'ouverte, et de là nous n'en avions pas perdu un mot. Après cela, ces seigneurs continuèrent de boire, mais ils ne poussèrent pas la débauche jusqu'au jour, attendu que Don Pompeo, qui devait parler le matin au premier ministre, était bien aise auparavant de se reposer un peu. Le marquis de Zenette et mon maître embrassèrent ce cavalier, lui dirent adieu et le laissèrent avec son parent. Nous nous couchâmes pour le coup avant le lever de l'aurore, et Don Mathias, à son réveil, me chargea d'un nouvel emploi. « Gil Blas, me dit-il, prends du papier et de l'encre pour écrire 2 ou 3 lettres que je veux te dicter. Je te fais mon secrétaire. » « Bon, dis-je en moi-même, surcroît de fonction. Comme laquais, je suis mon maître partout. Comme valet de chambre, je l'habille et j'écrirai sous lui comme secrétaire. Le ciel en soit loué. Je vais, comme la triple et 4, faire 3 personnages différents. « Tu ne sais pas, continua-t-il, quel est mon dessein. Le voici. Mais sois discret, il y va de ta vie. » Comme je trouve quelquefois des gens qui me vantent leur bonne fortune, je veux, pour leur damer le pion, avoir dans mes poches de fausses lettres de femmes que je leur lirai. Cela me divertira pour un moment. Et plus heureux que ceux de mes pareils qui ne font des conquêtes que pour avoir le plaisir de les publier, j'en publierai que je n'aurais pas eu la peine de faire. Mais, ajouta-t-il, déguise ton écriture, de manière que les billets ne paraissent pas tous d'une même main. Je pris donc du papier, une plume et de l'encre, et je me mis en devoir d'obéir à Don Mathias, qui me dicta d'abord un poulet en ces termes. « Vous ne vous êtes point trouvé cette nuit au rendez-vous. Ah, Don Mathias, que direz-vous pour vous justifier ? quelle était mon erreur, et que vous me punissiez bien d'avoir eu la vanité de croire que tous les amusements et toutes les affaires du monde doivent céder au plaisir de voir Donna Clara de Mandos. » Après ce billet, il m'en fit écrire un autre, comme d'une femme qui lui sacrifiait un prince, et un autre enfin, par lequel une dame lui mandait que, si elle était assurée qu'il fût discret, elle ferait avec lui le voyage du Cythère. Il ne se contentait pas de me dicter de si belles lettres, il m'obligeait de mettre au bas des noms de personnes qualifiées. Je ne pus m'empêcher de lui témoigner que je trouvais cela très délicat, mais il me pria de ne lui donner des avis que lorsqu'il m'en demanderait. Je fus obligé de me taire et d'expédier ses commandements. Cela fait, il se leva et je l'aidai à s'habiller. Il mit les lettres dans ses poches. Il sortit ensuite. Je le suivis et nous allâmes dîner chez Don Juan de Moncade qui régalait ce jour-là 5 ou 6 cavaliers de ses amis. On y fit grande chère et la joie, qui est le meilleur assaisonnement des festins, régna dans le repas. Tous les convives contribuèrent à égayer la conversation, les uns par des plaisanteries et les autres en racontant des histoires dont ils se disaient les héros. Mon maître ne perdit pas une si belle occasion de faire valoir les lettres qu'il m'avait fait écrire. Il les lut à haute voix, et d'un air si imposant qu'à l'exception de son secrétaire, tout le monde peut-être en fut la dupe. Parmi les cavaliers devant qui se faisait effrontément cette lecture, il y en avait un qu'on appelait Don Lope de Velasco. Celui-ci, homme fort grave, au lieu de se réjouir comme les autres des prétendues bonnes fortunes du lecteur, lui demanda froidement si la conquête de Donna Clara lui avait coûté beaucoup. « Moins que rien, lui répondit Don Mathias, elle a fait toutes les avances. Elle me voit à la promenade, je lui plais, on me suit par son ordre, on apprend qui je suis, elle m'écrit et me donne rendez-vous chez elle à 1 heure de la nuit où tout reposait dans sa maison. Je m'y trouvais, on m'introduisit dans son appartement, je suis trop discret pour vous dire le reste. » À ce récit laconique, le seigneur de Velasco fit paraître une grande altération sur son visage. Il ne fut pas difficile de s'apercevoir de l'intérêt qu'il prenait à la dame en question. « Tous ces billets, dit-il à mon maître en le regardant d'un air furieux, sont absolument faux, et surtout celui que vous vous vantez d'avoir reçu de Donna Clara de Mandos. Il n'y a point en Espagne de fille plus réservée qu'elle. Depuis 2 ans, un cavalier qui ne vous cède ni en naissance ni en mérite personnel, mais tout en usage pour s'en faire aimer. À peine en a-t-il obtenu les plus innocentes faveurs. Mais il peut se flatter que si elle était capable d'en accorder d'autres, ce ne serait qu'à lui seul. »
« Eh, qui vous dit le contraire ?»
interrompit Don Mathias d'un air railleur. « Je conviens avec vous que c'est une fille très honnête. De mon côté, je suis un fort honnête garçon. Par conséquent, vous devez être persuadé qu'il ne s'est rien passé entre nous que de très honnête. »
« Oh, c'en est trop !» interrompit Don Lope à son tour. « Laissons là les railleries. Vous êtes un imposteur. Jamais Donna Clara ne vous a donné de rendez-vous la nuit. Je ne puis souffrir que vous osiez noircir sa réputation. Je suis aussi trop discret pour vous dire le reste. »
En achevant ces mots, il rompit en visière à toute la compagnie et se retira d'un air qui me fit juger que cette affaire pourrait bien avoir de mauvaises suites. Mon maître, qui était assez brave pour un seigneur de son caractère, méprisa les menaces de Don Lope.
« Le fa ! » s'écria-t-il en faisant un éclat de rire.
Les chevaliers errants soutenaient la beauté de leur maîtresse. Il veut, lui, soutenir la sagesse de la sienne. Cela me paraît encore plus extravagant. La retraite de Velasco, à laquelle Moncade avait en vain voulu s'opposer, ne troubla point la fête. Les cavaliers, sans y faire beaucoup d'attention, continuèrent de se réjouir et ne se séparèrent qu'à la pointe du jour suivant. Nous nous couchâmes, mon maître et moi, sur les 5 heures du matin. Le sommeil m'accablait et je comptais de bien dormir. Mais je comptais sans mon hôte, ou plutôt sans notre portier, qui vint me réveiller 1 heure après pour me dire qu'il y avait à la porte un garçon qui me demandait. Ah, maudit portier ! M'écriai-je en bâillant. Songez-vous que je viens de me mettre au lit tout à l'heure ? Dites à ce garçon que je repose et qu'il revienne tantôt.
Il veut, me répliqua-t-il, vous parler en ce moment. Il assure que la chose presse.
À ces mots, je me levai. Je mis seulement mon haut de chausse et mon pourpoint, et j'allais, en jurant, trouver le garçon qui m'attendait.
« Ami, lui dis-je, apprenez-moi, s'il vous plaît, quelle affaire pressante me procure l'honneur de vous voir de si grand matin. »«
J'ai, me répondit-il, une lettre à donner en main propre au seigneur Don Mathias, et il faut qu'il la lise tout présentement. Cela est de la dernière conséquence pour lui. Je vous prie de m'introduire dans sa chambre. »
Comme je crus qu'il s'agissait d'une affaire importante, je pris la liberté d'aller réveiller mon maître.
« Pardon, lui dis-je, si j'interromps votre repos, mais l'importance... »«
Que me veux-tu ? » interrompit-il brusquement.
« Seigneur, lui dit alors le garçon qui m'accompagnait, c'est une lettre que j'ai à vous rendre de la part de Don Lope de Velasco. »
Don Mathias prit le billet, l'ouvrit, et après l'avoir lu, dit au valet de Don Lope,
« Mon enfant, je ne me lèverai jamais avant midi. Quelque partie de plaisir qu'on pût me proposer.
Juge si je me lèverai à 6 heures du matin pour me battre. Tu peux dire à ton maître que s'il est encore à 12h30 dans l'endroit où il m'attend, nous nous y verrons. Va lui porter cette réponse. »
À ces mots, il s'enfonça dans son lit et ne tarda guère à se rendormir. Il se leva et s'habilla fort tranquillement entre 11h et midi. Puis il sortit en me disant qu'il me dispensait de le suivre. Mais j'étais trop tentée de voir ce qu'il deviendrait pour lui obéir. Je marchai sur ses pas jusqu'auprès de Saint-Jérôme, où j'aperçus Don Lope de Velasco qui l'attendait de pied ferme. Je me cachai pour les observer tous deux. Et voici ce que je remarquai de loin. Ils se joignirent et commencèrent à se battre un moment après. Leur combat fut long. Ils se poussèrent tour à tour l'un l'autre avec beaucoup d'adresse et de vigueur. Cependant, la victoire se déclara pour Don Lope. Il perça mon maître, l'étendit par terre et s'enfuit fort satisfait de s'être si bien vengé. Je courus au malheureux Don Mathias. Je le trouvai sans connaissance et presque déjà sans vie. Ce spectacle m'attendrit et je ne pus m'empêcher de pleurer une mort à laquelle, sans y penser, j'avais servi d'instrument. Néanmoins, malgré ma douleur, je ne laissai pas de songer à mes petits intérêts. Je m'en retournai promptement à l'hôtel sans rien dire. Je fis un paquet de mes hardes, où je mis par mégarde quelques nippes de mon maître. Et quand j'eus porté cela chez le barbier, où mon habit d'homme à bonne fortune était encore, je répandis dans la ville l'accident funeste dont j'avais été témoin. Je le contai à qui voulut l'entendre, et surtout, je ne manquais pas d'aller l'annoncer à Rodriguez. Il en parut moins affligé qu'occupé des mesures qu'il avait à prendre là-dessus. Il assembla ses domestiques, leur ordonna de le suivre, et nous nous rendîmes tous auprès de Saint-Jérôme. Nous enlevâmes Don Mathias, qui respirait encore, mais qui mourut 3 heures après qu'on l'eût transporté chez lui. Ainsi périt le seigneur Don Mathias de Silva, pour s'être avisé de lire mal à propos des billets doux supposés.